tous les êtres humains sont aussi égaux dans l'accès au salut. Et je crois que la suite de l'Épître aux Romains, à partir du chapitre 5, on pourrait très bien parler de liberté, et puis encore plus loin de fraternité. Alors, je ne vais pas relire le passage de ce soir, parce que vous avez tous eu l'occasion, normalement, de lire, sauf Billy qui est arrivé à la fin, mais comme il le connaît par cœur, tout ira bien. Alors, c'est la suite du passage de la semaine dernière, bizarrement, et il est très lié au passage de la semaine dernière, parce que le chapitre 4 forme une unité qu'il est difficile de couper en plusieurs morceaux. Paul suit une argumentation jusqu'à une conclusion, et la semaine dernière, on s'était arrêté en plein milieu du développement. Quel dommage. Mais maintenant, on va pouvoir reprendre le raisonnement de Paul. Alors, la semaine dernière, on a vu les deux premiers points, un petit peu du développement de Paul. Le premier point, je dirais que c'est la justification par la foi. C'est une grâce. C'est pas un dû ou un mérite. Parce que si la justification était le fruit de son travail, on pourrait en tirer de la fierté. C'est pas bien. Le deuxième point, c'est que la justification, c'est bien par la foi, puisque Abraham a été déclaré juste avant une quelconque œuvre, en l'occurrence la circoncision. La conséquence de cela, c'est que la justification, c'est par la foi. Justification, le fait d'être déclaré juste. Et Paul ira même jusqu'à dire que tous ceux qui ont foi sont des enfants d'Abraham. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. C'est une chanson absolument abominable, je trouve, mais qui dit une certaine vérité, en tout cas. Maintenant, on va voir la suite. Les troisième et quatrième points de Paul et sa conclusion. Le troisième point, ce serait l'idée d'héritage et de promesse. Nous sommes héritiers de la promesse par la foi et pas par la loi. Le dernier point est centré sur la foi d'Abraham. Quelle est donc la foi d'Abraham? La foi d'Abraham, c'est une confiance envers et contre tout dans la promesse de Dieu. Dans les versets 23 à 25, Paul va tirer des conclusions de tout le chapitre 4. Et je résumerai ça en une phrase. Nous avons la même foi qu'Abraham. Nous sommes héritiers de la promesse, non par la loi, mais par la foi. C'est le premier point. On voit ça au verset 13 déjà. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Paul continue son argumentation. Jusqu'ici, il avait pas encore parlé de la loi, qui pourtant, c'est un élément fondamental pour les Juifs. Les Juifs y voient Abraham comme le personnage, la figure de celui qui a obéi. Avant la foi, ils pensent à l'obéissance quand ils pensent à Abraham. Et je vous avais lu un texte la semaine dernière, je vous lis un autre texte qui n'est pas dans la Bible, mais qui a été écrit par des Juifs entre les deux testaments. C'est le Siracide 44, verset 20. « Il, Abraham, observa la loi du Très-Haut. » Donc il obéit à la loi du Très-Haut. « Et fit une alliance avec lui, dans sa chair, il établit cette alliance. Et au jour de l'épreuve, il fut trouvé fidèle. » Le premier élément, c'est « il observa la loi du Très-Haut. » Mais Paul va mettre en opposition la loi et la foi. C'est par la justice de la foi et pas celle de la loi qu'Abraham a reçu le monde en héritage. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais les notions clés ici, c'est les notions d'héritage et de promesse. On quitte un petit peu le vocabulaire de la justice. Il y aura juste dans le dernier verset le mot « justification ». Mais à partir de là, Paul va plutôt utiliser les idées de promesse et d'héritage. Il y a probablement un lien entre justice et promesse. Alors, l'héritier, c'est celui qui bénéficie de l'héritage. Et l'héritage, au verset 13, promis à Abraham et sa descendance, c'est le monde. Alors, le monde, ce n'est pas exactement l'expression qui est utilisée dans le livre de la Genèse. Peut-être que vous avez eu le temps de regarder le passage dans la Genèse. C'est pas exactement comme ça que c'est dit. C'est pas le monde texto qui est promis à Abraham. Mais je crois que cette expression, le monde, elle récapitule un petit peu les trois aspects de la promesse d'Abraham. Vous en avez probablement discuté dans les groupes. Les trois aspects, c'est le pays. Il y a un pays qui est promis à Abraham. C'est la bénédiction. Ceux qui bénissent Abraham seront bénis. Et il y a l'idée de nation. Toutes les nations seront bénies en Abraham. Et c'est une idée qu'on va retrouver plus tard, notamment chez les prophètes, qui voient des nations, c'est-à-dire les non-juifs, accourir à Jérusalem, dans Ésaïe 55 par exemple. La question ici qui se pose, c'est comment se mettre au bénéfice des effets de la promesse? Comment obtenir les effets de la promesse? Les juifs pensaient que c'était par l'obéissance de la loi. Paul affirme que c'est par la foi. Et dans la suite du passage, il va d'abord dire ce n'est pas par la loi, effectivement, versets 14 et 15, et après il va de manière plus positive dire c'est bien par la foi. Donc verset 14, si l'on devient héritier par la foi est dépourvue de sens et la promesse sans effet. Paul va expliquer pourquoi ce n'est pas par la loi que la promesse est atteinte. Parce que la loi annule les effets de la promesse. Dans le verset 14, il prend une situation un petit peu hypothétique. Imaginons, mes chers amis, que nous devenions héritiers par la loi. En fait, c'est ce que pensaient les Juifs. Imaginons que on devienne héritier en nous basant sur la loi, c'est-à-dire en espérant dans la loi, en espérant que c'est par l'obéissance à la loi qu'on va pouvoir bénéficier de la promesse. Paul dit, très simple, ça, c'est dépourvu de sens. La foi, dans ce cas-là, elle serait dépourvue de sens. La promesse serait sans effet. Alors pourquoi de tels héritiers rendent-ils la foi dépourvue de sens? On pourrait se dire, tout simplement, que l'idée de promesse, voilà, on promet quelque chose, c'est incompatible avec l'idée de mérite ou de dû. Une promesse, ça n'attend pas, si je dis à Keith, fais ça et je te donnerai ça, c'est pas vraiment une promesse. Une promesse, c'est je te donnerai ça, Keith. Mais c'est, en fait, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être même pas ça que Paul a en tête. Parce que on peut se rappeler ce que Paul a écrit dans les chapitres 1 à 3. Paul a démontré que c'était impossible de suivre la loi, que on avait beau essayer, on n'y arrivait pas. L'homme était incapable de obéir complètement, parfaitement à la loi. La conséquence de ça, c'est que l'homme est condamné. En fait, la loi nous condamne. Nous sommes condamnés par elle, et si nous sommes condamnés par elle, très logiquement, nous ne sommes pas sauvés par elle. Et je crois que c'est bien ce que confirme le verset 15. En effet, la loi produit la colère. Le rôle de la loi, c'est pas de sauver. La loi produit la colère, puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. La fin de ce verset 15, elle n'est pas forcément évidente à cerner. Paul, en fait, il ne va pas développer entièrement la question de quel est le rôle de la loi. Parce que ce qui l'intéresse, c'est de montrer que justement, ce n'est pas par la loi qu'on est sauvé, qu'on hérite de la promesse. Alors, comment comprendre cette phrase? On pourrait comprendre cette phrase de manière universelle. C'est-à-dire, Dieu est en colère contre les transgressions. Sans loi, il n'y a pas de transgression. Mais on a vu au chapitre 2, finalement, tout le monde était sous une certaine loi. Il y a la loi inscrite dans le cœur, il y a la loi des juifs. Donc, Paul serait en train de dire que la colère de Dieu est justifiée contre tous les hommes, puisqu'il y a, une loi, universellement. Et en fait, ça, précisément, Paul l'a déjà démontré. Au chapitre 2, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il se répéterait dans ce cas-là. Mais dans le contexte, si on fait attention au contexte, on est toujours au point où Paul cherche à démontrer que le rôle de la loi n'est pas de sauver. Alors observez bien le terme qui est utilisé. C'est pas le terme de péché qui est utilisé, mais le terme de transgression. C'est pas le terme général du péché. Paul parle d'une chose un petit peu plus particulière que le péché, c'est-à-dire la transgression de la loi. Le mot transgression, c'est l'idée de franchir une limite. On établit une limite, si je dépasse cette limite, alors je transgresse la limite. La transgression, c'est l'idée, en fait, de dépasser les limites établies par la loi de Moïse. Il ne s'agit pas de dire que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché, mais il dit quelque chose d'un peu plus précis. Là où il y a la loi de Moïse, plutôt là où il n'y a pas la loi de Moïse, il n'y a pas la transgression de cette loi, puisqu'elle n'existe pas. Il y a quand même la possibilité de pécher, parce qu'on a vu que finalement la loi est universelle, mais ce n'est pas ce qui est visé ici. Ce qui est visé ici, c'est la loi de Moïse. Le vrai objectif de Paul, c'est de montrer que on est au bénéfice de l'héritage par la foi et pas par la loi. On pourrait schématiser les choses un petit peu comme ça, je pense. Dieu a donné la loi aux Juifs, les Juifs transgressent la loi, et donc la loi apporte la colère aux Juifs. Donc la loi, plutôt que de secourir les hommes de la condamnation, elle confirme la sentence de condamnation. En fait, la loi, en explicitant clairement et en détail ce que Dieu requiert des hommes, d'une certaine façon, elle les rend même encore plus responsables de leur transgression, de leur culpabilité. Donc c'est vraiment pas par la loi qu'on devient héritier. Alors maintenant qu'on a vu le côté négatif, ce n'est pas par la loi du verset 13, on a maintenant le pendant positif. C'est par la foi, au verset 16. C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit, « Je t'ai établi, père d'un grand nombre de nations. » Donc là, on revient à l'idée de la foi. Qu'est-ce que la foi permet? Quelle est la conséquence de la foi? On a déjà vu un petit peu la dernière fois que la foi apporte la grâce. Sans la foi, la grâce plutôt, c'est un peu le corollaire de la foi. Ça va ensemble. Je ne développe pas trop cette idée parce qu'on l'a déjà vu dans le passé. Mais dans la suite du verset 16, il y a une autre idée, il y a une autre problématique qui se pose. C'est comment est-ce qu'on a la garantie que la promesse va se réaliser pour Abraham et pour sa descendance? Qu'est-ce qui fait que par la foi, c'est sûr, on va hériter de la promesse? Et c'est sûr, non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs, pour toute la descendance d'Abraham. Là, il y a l'idée de descendance d'Abraham qui est déclinée d'un petit peu de deux façons. Il y a de deux façons qui sont contrastées. Il y a ceux qui sont sous la loi, pour que la promesse soit assurée, non seulement à celles qui dépendent de la loi, ceux qui sont sous la loi. Je crois qu'il faut voir ici les Juifs, tout simplement, ceux qui sont issus de la loi, par opposition aux non-Juifs, qui ne sont pas issus de la loi, qui ne font pas partie du peuple issu d'Abraham, le peuple qui a reçu la loi. Forcément, ces gens-là, c'est que par la foi qu'ils peuvent être, enfants d'Abraham. Et je vous renvoie au verset 12, qui explicite encore plus cette idée. Donc comment ça se fait que la promesse est garantie pour toute la descendance d'Abraham, juif et non-juif? La clé de tout le passage, je crois, se trouve au verset 17. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. » Verset en deux bouts, le premier bout, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations », c'est une citation de Genèse 17. Ça permet d'enraciner bibliquement l'argument de Paul. Et la deuxième partie, c'est une partie un petit peu pivot entre la partie d'avant et celle qui suit, où on s'intéresse en particulier à la foi d'Abraham. La foi d'Abraham est une foi en Dieu, tout comme notre foi est une foi en Dieu. C'est ce qui est dit au verset 24. « Nous croyons en celui qui a relevé Jésus-Christ d'entre les morts. » Et il y a un parallélisme ici entre la foi entre la foi d'Abraham et notre foi, qu'on creusera plus plus tard. Mais il y a cette idée de foi en un Dieu qui donne la vie, ou qui ressuscite, qui donne la vie aux morts. C'est très important parce que c'est ça le fait capital, c'est ça qui rend la foi possible. C'est ça qui permet à l'homme de faire confiance à Dieu, de s'agripper, de s'accrocher aux promesses de Dieu. C'est parce que Dieu est le Dieu du verset 17. Et dans ce verset, on a des éléments très importants qui expliquent la foi. Pourquoi est-ce que Abraham peut s'accrocher à ce Dieu ? Parce qu'il donne la vie à ce qui est mort. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. On peut y voir une référence déjà un peu à la création, à Genèse, où Dieu dit et la chose existe. Dieu appelle les choses à l'existence. Il peut redonner vie. Il donne la vie aux morts. Et c'est la caractéristique sur laquelle se base la foi. C'est important pour Jésus-Christ, parce que c'est Dieu qui ressuscite Jésus-Christ. C'est important pour nous, parce que nous espérons que nous allons être ressuscités aussi. Et c'est important pour Abraham, qui est comme déjà atteint par la mort. C'est comme s'il était mort, au verset 19. Et pareil pour Sarah, plus littéralement, il est dit que Sarah, son ventre est comme mort, au verset 19. Je vais lire dans cette version. Sans faiblir dans la foi, il considéra son propre corps déjà atteint par la mort, il avait près de 100 ans, et le ventre mort de Sarah. Il considéra le ventre mort de Sarah. Donc l'idée d'un Dieu qui donne vie, ça fait sens à la foi d'Abraham. Je crois qu'on peut aussi appliquer ça à nous-mêmes, à notre vie de prière, par exemple. Si on prie, fondamentalement, c'est parce qu'on pense que Dieu est capable d'exaucer nos prières. Si on prie, c'est parce qu'on se doute bien que Dieu, il va répondre aux prières, parce qu'il est le Dieu créateur, parce qu'il est le Dieu qui peut tout, il est le Dieu qui amène à l'existence les choses même qui n'existent pas. Et ça tombe bien parce que Dieu a même envie de nous donner le meilleur, de donner le meilleur pour nous. Donc il ne faut pas hésiter à lui demander le meilleur. Mais ça peut être un piège d'ailleurs parce que on ne pense pas toujours au meilleur pour nous. Mais Dieu, lui, nous donne le meilleur même quand ça ne nous arrange pas. Même quand on pense que ça ne nous arrange pas. Donc maintenant, on va s'intéresser à la foi d'Abraham. C'est la deuxième partie. Cette façon de caractériser Dieu, elle est donc capitale quand on essaie de comprendre ce que c'est la foi. C'est sur cette base que se construit la foi d'Abraham. C'est sur cette base qu'on peut répondre à la question « Qu'est-ce qui garantit que la promesse va se réaliser ?» Et justement, dans les versets 18 à 21, on voit quelle est la foi d'Abraham. Pourquoi c'est une foi qui a confiance. C'est une foi qui garantit la promesse. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, que son ventre était mort, littéralement. Alors Paul ici, il utilise le terme d'espérance. C'est un mot proche de la foi, de la confiance. Espérer, c'est penser que quelque chose va se réaliser. Alors l'espérance peut être plus ou moins forte. Ici, c'est une espérance assurée. Et c'est pas comme l'idée qu'on peut avoir de l'espérance parfois. Par exemple, j'aimerais bien avoir une bonne note à mon examen, parce que c'est un examen important. Alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup révisé, j'ai pas trop travaillé ça, mais quand même, j'ai l'espoir que peut-être le correcteur sera indulgent, j'aurai de la chance à mon examen et j'aurai une pas trop mauvaise note. C'est pas l'espérance qui est dans ce passage-là. L'espérance d'Abraham, c'est une espérance synonyme de foi, de confiance, d'assurance. Et il faut avouer que Abraham, vu de l'extérieur, comme ça, il n'avait pas particulièrement de raison d'espérer avoir des enfants, une descendance. Abraham n'était plus tout jeune, Sarah non plus. Ils ont carrément dépassé l'âge d'avoir des enfants. Sarah même, son ventre est caractérisé par la mort. C'est probablement une manière de parler de stérilité. Et non seulement elle était stérile, mais en plus, elle avait dépassé l'âge, depuis fort longtemps, d'avoir des enfants. Et autant un couple qui, maintenant, dans la force de l'âge, n'arrive pas à avoir des enfants, ils peuvent avoir un espoir dans la médecine, dans la science. Autant même Sarah, je pense qu'un médecin de nos jours, il dirait « Non, c'est pas possible. » Il y en a, c'est possible, mais Sarah, c'est pas la peine d'espérer. C'est absolument impossible, même la science ne peut pas faire ce genre de miracle. Et pourtant on peut pas dire que la foi d'Abraham, elle est complètement débile. Puisque Abraham s'appuyait sur le fait que Dieu est celui qui donne la vie, qui redonne la vie. La promesse de Dieu, justement, la promesse de Dieu à Abraham, c'est celle de créer la vie, d'appeler à l'existence une descendance, de mettre la vie dans le ventre mort de Sarah. Et nous non plus, hein, dans l'absolu, on pourrait trouver plein de raisons de ne pas croire en Jésus, son sacrifice, sa résurrection, de douter la mort et la maladie nous entourent. Peut-être autour de nous, on a des gens qui sont malades à vie, des gens qui ont été handicapés dans un accident, par exemple. Et la science fait beaucoup de choses, mais malgré tout, elle ne peut au mieux que retarder l'issue finale de l'être humain, la mort. Et de notre point de vue, il n'y a personne qui est revenu de la mort pour nous dire, à nous directement, parce qu'il y a Jésus, hein, mais nous maintenant, il n'y a personne qui est revenu de la mort pour nous dire ce qui va se passer après. Donc, dans l'absolu, on n'aurait aucune raison absolue de croire que Dieu va nous délivrer de la mort. Pourtant, c'est aussi notre foi. On s'appuie sur un fait qui n'est pas si absurde que ça à imaginer, que Dieu existe et que Dieu donne la vie, que Dieu peut nous ressusciter, que Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Et on pourrait réfléchir beaucoup plus à notre foi. On pourrait trouver plein de raisons, en fait, et s'apercevoir que notre foi n'est pas complètement stupide, mais qu'elle est même une foi raisonnable, mais ce n'est pas le temps ici. On va continuer verset 20, toujours sur la foi d'Abraham. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi. Et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est ça, la foi. Alors ça ne veut pas dire que globalement, Abraham n'a jamais eu de moment de doute, de flottement. Il y a plusieurs épisodes de la vie d'Abraham qui montrent que Abraham n'a pas eu une foi totale, complète en Dieu. Mais quand même, dans le Nouveau Testament, Abraham est un exemple de foi. Même s'il a eu des épisodes de doute, globalement, Abraham est quelqu'un qui a eu une vie enracinée dans la promesse de Dieu. Il avait une vie qui, globalement, a eu confiance en Dieu. Et la conséquence de ça, c'est au moment de l'épreuve, la fameuse histoire avec Isaac, effectivement, il a été obéissant, il a été fidèle, mais justement parce qu'il a eu foi. Mais avant même cet épisode, il est dit qu'il a été fortifié par la foi. On peut comprendre ça dans le fait, ça se passe avant hein, l'accomplissement de la promesse quand même, mais Abraham a dépassé l'obstacle de sa condition physique et il a eu foi malgré tout. Il a eu foi envers et contre tout, parce qu'il avait confiance que ce que Dieu dit, il peut l'accomplir. Il avait confiance en Dieu, parce que Dieu est le Dieu qui ramène à la vie, qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et donc à partir de ça, à partir de tout ça, Paul va conclure dans les versets 23 à 25 et il va dresser un parallèle important entre nous et Abraham, entre notre foi et Abraham. Abraham et nous, même combat, Abraham et nous, même, une même foi. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Paul conclut par ces trois derniers versets. Le premier point de sa conclusion, c'est que Abraham, l'histoire d'Abraham a été écrite non seulement pour lui, la promesse a été faite non seulement pour lui, mais pour nous. C'est pour nous qu'il écrit tout cela. Et ça va globalement dans la démarche de l'apôtre Paul, où on pourrait dire tout l'Ancien Testament a été écrit pour nous, si on le comprend bien. L'Ancien Testament, c'est l'histoire du plan du salut qui attend Jésus-Christ, et Jésus-Christ en est l'aboutissement, l'accomplissement. Et l'Ancien Testament nous raconte cette histoire. Il a été écrit pour nous, pour que nous croyions aussi. Et je peux témoigner qu'une des choses qui m'a le plus fortifié dans ma foi personnellement, c'est de comprendre l'ensemble de... Je ne dis pas que j'ai compris tout l'Ancien Testament, mais de comprendre qu'il y a en tout cas un plan qui avance au fur et à mesure de l'histoire. Mais ce que dit Paul, ce n'est pas juste un exemple. Ce n'est pas juste une comparaison entre notre foi et celle d'Abraham. Ça va plus loin que ça. Parce qu'il s'agit d'exactement la même foi, en fait. Nous croyons dans le même Dieu. Si on en revient au parallèle entre le verset 17 et le verset 24, Abraham, comme nous croyons en ce Dieu qui donne la vie. Dans ces deux versets, il y a deux éléments. Il y a le fait que c'est en Dieu et le fait que Dieu donne la vie. Et souvent, on parle de la foi comme la foi en Jésus-Christ. Et c'est frappant. Je pense qu'il n'y a pas tant de passages que ça qui parlent de la foi directement en Dieu. Bien sûr, l'un n'exclut pas l'autre. C'est tout un package, on va dire. C'est tout un ensemble, la foi. Mais notre foi, précisément, si on croit en Jésus, si on croit que Jésus est mort et ressuscité, c'est parce que Dieu l'a ressuscité. Et je crois qu'on pourrait même aller jusqu'à dire que nous croyons dans la même promesse qui a été faite à Abraham d'une descendance. Parce que la descendance d'Abraham, la descendance, c'est Jésus. Et l'accomplissement de la promesse d'Abraham, il commence avec Jésus. C'est grâce à Jésus que le monde, que les nations peuvent accourir en direction de la Jérusalem céleste. C'est par Jésus, par la descendance d'Abraham, que toutes les nations peuvent être bénies. Dans le verset 22, dans le verset 24, chose intéressante, il y a cette idée de imputation qui est au futur. Et jusqu'ici, il faut avouer qu'on a parlé, et implicitement derrière l'imputation, il y a la justification, Et jusqu'ici, cette mise à notre compte de la justification, on l'avait imaginée uniquement, je crois, au présent. La justification, c'est le fait que, par la foi, dès maintenant, nous acquérons le statut de juste. Et ici, il y a le futur qui est intéressant. Paul nous ouvre dans une perspective future. En mots savants, on dirait que Paul a une perspective eschatologique. Il pense à la fin du monde. Il y a une justification future et il y a une justification présente. Notre justification future, c'est non seulement on a déjà acquis le statut de juste, mais en plus on sera juste vraiment, on sera plus pécheur. Et ça fait partie aussi de notre foi, que croire en Dieu, c'est aussi croire que Dieu va nous ressusciter à la fin des temps. Et mine de rien, cette perspective du futur, elle change beaucoup de choses pour nous. Moi, je compare ça souvent avec une course d'athlétisme, par exemple, où on a une ligne de départ et une ligne d'arrivée. La ligne de départ, c'est la course, c'est notre vie chrétienne, on va dire. La ligne de départ, c'est la justification. C'est par la foi, nous devenons justes. La ligne d'arrivée, c'est la fin, c'est quand Jésus revient, notre résurrection, le moment où nous sommes, où nous devenons parfaits, avec des corps parfaits. Mais pendant que nous courons, nos yeux sont fixés vers cette réalité future. Et ça change pas mal de choses dans notre vie. La ligne de départ, c'est notre impulsion, mais nous courons en direction de cette ligne d'arrivée. Et j'aurais pas trop le temps de vraiment développer en pratique tout ce que ça pourrait impliquer dans notre vie. Mais le fait de savoir, par exemple, que chacun, les uns avec les autres, nous formons une famille, puisque nous avons un ancêtre, Abraham, que nous allons vivre ensemble l'éternité, je pense que ça change la façon dont nous devons nous comporter les uns envers les autres, dont nous établissons des relations les uns envers les autres. Notre foi s'appuie sur le fait que Jésus est mort et ressuscité. C'est ce qui est dit dans le verset 25. C'est un verset qui n'est pas forcément évident à comprendre. Lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. On comprend bien le « à cause de nos fautes », c'est parce qu'on était pécheurs que Jésus est mort pour nous. Mais il est dit, de la même manière, de manière parallèle, il est ressuscité à cause de notre justification. Ce qui a un sens un petit peu différent que il est ressuscité en vue pour notre justification. Même si ça exclut pas ce sens. Et les commentateurs sur ce verset, ils ont des avis assez divers. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la mort et la résurrection, par ce procédé, en tout cas, Paul, il lit ensemble l'idée de mort et de résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes justes à la fois parce que Jésus est mort, mais aussi parce qu'il est ressuscité. Sans la résurrection de Jésus-Christ, sa mort, elle servirait pas à grand-chose. Mais sa résurrection, c'est la preuve que Jésus est Dieu, c'est la preuve de la victoire sur la mort, c'est aussi la confirmation de la promesse que Dieu ramène à la vie. La résurrection est aussi un des éléments fondamentaux de notre foi. Comme le temps s'écoule, je vais m'arrêter là, mais peut-être que vous avez des questions. Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire recevoir le monde en héritage ?
Recevoir le monde en héritage. Ouais. C'est en fait. Je vais prendre cette Bible là. Paul, il en parle comme la promesse qui a été faite à Abraham. Tac, je retrouve juste le verset.
13,
voilà. C'est au moyen de la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa descendance. Donc, comment comprendre le monde ? J'essaie de dire que c'était une manière de parler de tous les aspects de la promesse en un seul mot. Parce que la promesse d'Abraham d'avoir une descendance, La promesse, c'est Jésus-Christ. Et que fait Jésus-Christ à la mort et avec sa mort et sa résurrection? Il y a des versets qui parlent de la résurrection, c'est le thème de la victoire, et c'est une victoire sur le monde entier. Toutes les autorités, etc., ont été réduites à néant. Jésus est vu comme celui, Jésus, la descendance d'Abraham, est vu comme celui qui est souverain sur le monde, qui est le roi. Voilà, roi. Jésus règne sur le monde. Donc, indirectement, le fait que Jésus règne sur le monde, c'est la promesse qui a été faite à Abraham, que sa descendance, c'est-à-dire Jésus, va régner sur le monde. Et avec ce règne, il y a tous les autres aspects de la promesse qui s'appliquent aussi. Le fait qu'il y ait des juifs comme des non-juifs qui fassent partie du peuple du roi, Jésus, etc., etc. Est-ce que ça répond à la question ? Salomon ?
J'ai mentionné le verset 19.
Verset 19.
J'ai envie de lire la foi, mais par contre, c'est vrai que son corps était déjà usé.
Ouais.
Ma question, c'est comment faire la différence entre une promesse de Dieu et un déni, une déconnexion de la réalité ?
Je suis pas sûr de comprendre vraiment la question. C'est-à-dire que.
Comment savoir si c'est Dieu qui te promet quelque chose ou si c'est toi qui te fais un fantasme ?
Exactement, oui.
Ouais. C'est une bonne question. Et je ne sais pas si je vais avoir une réponse par rapport à ça, mais ça tient dans le mode de révélation, je pense. C'est Dieu se révèle à Abraham, et on ne sait pas exactement comment Dieu s'est révélé à Abraham. Voilà, on sait que Dieu a dit à Abraham sa promesse, même si on ne sait pas comment. Donc ça, c'est le cas d'Abraham. Pour nous, Dieu nous parle à travers l'écriture principalement. Alors il y a aussi on pourrait parler du rôle du Saint-Esprit qui nous renouvelle, etc. Mais concrètement, si on a une idée, si on pense qu'une chose est vraie, je sais pas, on pense que Dieu m'a dit telle chose par exemple, il faut vérifier ça à la lumière de la Bible, qui est la seule norme, qui est la seule garante. Ça vaut pour...
Je pense à la lumière de la Bible et aussi à la lumière de ce qu'il y a autour de nous, parce que c'est les promesses qui sont écrites dans la Bible, c'est clair et net qu'on ne peut pas douter qu'elles viennent de Dieu, le fait que Jésus vienne, etc. Pour ce qu'on reçoit de nous, des fois, c'est un petit peu plus compliqué de réussir à juger. Et y a toujours 20 000 histoires de trois filles à qui Dieu a dit en même temps qu'elles devaient épouser le même garçon. Enfin, c'est des trucs qui traînent tout le temps, mais tout le monde a entendu cette histoire-là. Et je pense que là, à mon avis, le truc, c'est de l'ultra-prudence, quoi. De l'ultra-prudence avant d'oser se dire et d'oser dire à quelqu'un « Dieu m'a promis à moi ça ». Et voilà, ça s'éprouve dans le temps, ça s'éprouve en parlant à des personnes de confiance, ça s'éprouve avec l'écriture, ça s'éprouve... Mais voilà, il faut être excessivement prudent, à mon avis, parce que c'est toujours très très difficile de savoir d'où viennent les choses qu'on a dans la tête.
D'autres questions ? Il lui fait le nom de la tête, donc il n'y a pas d'autres questions.